Le député européen Philippe Lamberts est un habitué des rencontres avec le public. Rendre compte de son mandat, décrypter l'actualité des États membres de l'Europe, éclairer les pistes des possibles de la transition écologique. La mise à jour remonte au 28 août 2020. Vous êtes à Blegy, dans l'entité de Dour, et vous écoutez Philippe Lamberts, député européen et président du groupe des Verts au Parlement européen.
Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'avec la période de confinement, on ne peut pas dire que ce genre de rencontre a été très courante ces derniers mois. Et en fait, moi, j'ai envie de ces rencontres. Ça fait partie vraiment c'est la partie que j'aime vraiment bien dans le boulot. Et quand on ne peut plus rencontrer les citoyens, ben, on est un peu perdu, je trouve, comme responsable politique. Alors, j'avais proposé de faire juste le point sur qu'est-ce qui se passe en Europe. Et donc, je vais essayer de vous dresser le paysage, d'où on vient, où on va. D'où on vient, on vient d'une Commission européenne qui achève le mandat de Jean-Claude Juncker. Je commence souvent ma présentation par son discours d'adieu. Donc, c'est il y a un an à peu près, Jean-Claude Juncker a été président de la Commission européenne, donc si vous voulez, le gouvernement de l'Union. Il a été président pendant 5 ans, il n'a fait qu'un mandat. Et il nous quitte en faisant un discours de 20-25 minutes, faisant le bilan de ces 5 ans. Et il parvient à parler pendant 25 minutes, ça oui, c'est pas un problème, mais sans prononcer une fois le mot climat. Sans prononcer une fois, je vous jure, pas une fois le mot environnement. C'est intéressant parce que c'est pendant son mandat qu'il y a eu ce qu'on a appelé la COP21 à Paris. C'est pendant son mandat que le GIEC a tiré la sonnette d'alarme jamais aussi fort en disant, voilà, il nous reste 10 ans pour prendre le virage, faute de quoi, ben, on sera face à un changement climatique complètement hors de contrôle. Et ça ne lui vient même pas à l'idée d'évoquer le sujet. Je dis ça parce qu'il incarne en fait une forme de continuité de l'Union européenne. Il y a grosso modo 2 grandes phases dans la construction européenne depuis le début. La première grande phase, c'est celle de la reconstruction de l'après-guerre. C'est la phase du grand compromis entre le capital et le travail, ce qu'on a appelé l'économie sociale de marché, où essentiellement l'Union européenne accepte l'économie de marché et d'un autre côté impose une fiscalité, une sécurité sociale qui sont fortement redistributives. Ça, c'est les premières 30 années jusqu'à la révolution néolibérale. Et ça peut sembler curieux, on parle d'un voisin, Jacques Delors, qui est un Français dont la fille vient de reconquérir la mairie de Lille. Jacques Delors qui, en fait, a quelque part incarné un peu le virage néolibéral de l'Union. On garde une mémoire assez positive de Jacques Delors, mais en fait, quand on y regarde de plus près, quand on voit la base sur laquelle les politiques ont été menées, l'acte unique puis la monnaie unique, c'est essentiellement le virage néolibéral qui dit que le marché, c'est tout mieux que l'État, qu'il faut mettre les États en concurrence fiscale, sociale, etc., pour s'assurer qu'ils soient bien gérés. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Et Jean-Claude Juncker, c'est un peu la fin de ce cycle, je pense. C'est la fin de ce cycle, puisque vous avez une nouvelle personne qui est présentée pour lui succéder après les élections européennes, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est une ministre allemande qui est conservatrice, donc du parti d'Angela Merkel, qui a, on peut dire que c'est, sur le profil, c'est une conservatrice avec une forte fibre sociale. Donc elle a été ministre de la Santé, donc elle est médecin de formation, elle a été ministre de la Santé, elle a été ministre de la Famille et des Affaires sociales, puis elle a fini par boucher un trou dans l'équipe Merkel en acceptant le poste de ministre de la Défense qui lui allait absolument pas et ça s'est pas très bien passé. Mais en tout cas, c'est une femme qui, dans une Allemagne qui continue à voir la femme à la maison, à l'église et avec les enfants, elle a voulu déployer des crèches dans tout le pays pour permettre aux femmes de travailler, etc. Dans un parti conservateur qui porte un peu l'agenda un peu machiste, c'est le signe d'un fort engagement sur les questions sociales. Par contre, sur l'environnement, pas un mot. Je veux dire, si vous regardez le passé d'Ursula von der Leyen là-dessus, rien. Silence radio. Et elle décide, au moment où elle se présente au suffrage du Parlement européen, de faire d'un Green Deal européen, d'une nouvelle donne verte européenne, le cœur de son programme de 5 ans. Ce qui peut apparaître un peu surprenant. Tout ça dans un contexte particulier, qui est celui des élections européennes d'il y a un an, un peu plus qu'un an maintenant. Alors rappelez-vous, on annonçait la grande victoire des nationaux populistes, qu'ils allaient rendre l'Europe ingouvernable, qu'ils allaient imposer leur agenda de repli nationaliste. En fait, qu'est-ce qu'on constate? Oui, les nationaux populistes ont progressé lors de ce scrutin. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir progressé. Les Verts ont progressé. Alors, c'est un phénomène qui est très nord-ouest européen, donc qui est très peu sud-européen, très peu est-européen. Mais en tout cas, dans les pays où on a vu les marches pour le climat, ben, les Verts ont cartonné aux élections européennes. Et je dirais que la tendance ne s'est pas démentie depuis. Et donc, les Verts qui représentent, avant les élections, 7% du Parlement, on représente 10% du Parlement, donc on a progressé à peu près de moitié. Mais bon, 10%, ça reste évidemment une force dont on peut se passer, et on s'est passé de nous. Mais les nationaux populistes, qui ont pour particularité d'être nationalistes, ça c'est dans le nom, ils ne sont donc pas très internationalistes. Et donc pour eux, s'unir au-delà des frontières, c'est compliqué. Résultat des courses, aujourd'hui, les nationaux populistes sont dispersés au Parlement européen entre le groupe où se trouvent les amis de Marine Le Pen, aussi les amis de Geert Wilders aux Pays-Bas, aussi, qui est-ce qu'il y a encore là-dedans, je ne dis pas de bêtises, parce que l'AFD allemande, l'extrême droite allemande. Mais vous avez un deuxième groupe où se trouve l'extrême droite suédoise, l'extrême droite italienne, l'extrême droite... Alors, il y a plusieurs partis d'extrême droite en Italie. Il y a Salvini d'un côté, qui est avec Le Pen, mais vous avez les Fratelli d'Italia qui sont avec, avec l'extrême droite finlandaise, l'extrême droite suédoise, et tiens, la NVA, dans le même groupe. Et puis vous avez encore des gens comme Viktor Orban, qui sont toujours au PPE, c'est-à-dire les chrétiens démocrates. Donc en fait, l'extrême droite est dispersée entre trois groupes politiques. Elle a fait des bons résultats, mais elle n'est absolument pas en état de bloquer le fonctionnement des institutions européennes. Première bonne nouvelle. Mais donc, comme je vous le disais, un autre phénomène qui a marqué l'année qui a précédé les élections européennes sont les marches pour le climat, c'est les rapports du GIEC de plus en plus alarmistes. Et c'est probablement ça qui explique que Ursula von der Leyen décide de mettre un Green Deal au cœur de son programme. Comme je dis, elle n'a pas de passé dans l'écologie politique et subitement, elle a envie de faire du sujet de la transition. Alors, elle ne l'appelle pas comme ça, elle l'appelle Green Deal, mais c'est en tout cas partiellement de ça qu'il s'agit. Elle décide d'en faire la grande affaire de ces 5 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est juste de la communication ? Ce serait malhonnête. Ce serait malhonnête parce que quand on lit ce qu'on appelle la communication Green Deal, c'est-à-dire essentiellement la déclaration d'intention de la Commission qui est publiée alors en décembre dernier sur le Green Deal, on ne parle pas que du climat et on dit précisément que le tout n'est pas de dépenser de l'argent pour lutter contre le changement climatique, le tout est de faire en sorte que toutes les politiques évitent de contribuer au changement climatique. Autrement dit, oui, bien sûr, il faut des politiques spécifiques pour contrer le bouleversement climatique, mais il faut surtout que les autres politiques ne bouleversent pas encore plus le changement climatique. Et donc, le souci de cohérence des politiques européennes est clairement affirmé. Et puis, elle ne parle pas que du climat. Elle évoque la question de l'effondrement de la biodiversité, de l'épuisement des ressources. Donc, il semble, en tout cas dans la communication de la Commission, qu'elle a un agenda assez large sur la transition. Donc, a priori, dire « tout ça, c'est du bullshit, elle fait de la com pour se faire bien voir des marcheurs pour le climat », c'est un peu court. C'est un peu court et ce ne serait pas honnête. Donc, si elle n'a pas de passé sur la question écologique, je pense, et pour la côtoyer quand même régulièrement, que c'est une venue récente à ces problématiques, mais sincère. Et ça, c'est nouveau. Que la tête de la Commission européenne soit consciente... Je vais reprendre un terme qu'elle utilise dans une conversation privée qu'on a. Elle dit « on est face à un défi existentiel ». Vous n'entendez pas beaucoup de conservateurs parler de la question climatique, de la question des ressources et de la biodiversité comme des enjeux existentiels. Ils disent « ouais, c'est important, ouais, c'est important ». Non, c'est existentiel. Alors, est-ce que c'est le fait qu'elle a 7 enfants, des petits-enfants, j'en sais rien. Peut-être que ça joue. Les marches pour le climat ont joué. Mais je crois qu'elle est vraiment sincère. Maintenant, il ne faut pas non plus crier victoire, d'abord parce que tout ça sont encore des intentions. Et puis, il y a quelques indicateurs qui montrent un peu les limites de l'exercice. Je m'explique. Une politique qui est de compétence quasi exclusive de l'Union, c'est bien la politique agricole commune. Il se fait que c'est le premier budget de l'Union. La politique agricole commune, c'est un projet qui a commencé très tôt dans la construction européenne et dont l'objectif à l'époque est ce qu'on appelle avec nos mots d'aujourd'hui la souveraineté alimentaire, faire en sorte que l'Europe puisse subvenir à ses besoins alimentaires. Donc, c'est un objectif très écolo à l'origine de la PAC. Qu'est-ce que la PAC est devenue ? Une machine à pousser toute l'agriculture européenne dans un modèle productiviste mondialisé. Et on le voit sur la question du lait, on le voit sur la question des céréales. Le but est de massifier la production pour que l'Europe ait des choses à vendre sur les marchés internationaux. Donc c'est une politique agricole qui a fait d'une agriculture qui peut être en fait un capteur de carbone, une agriculture qui est un émetteur net de carbone. Vu la mécanisation, vu les intrants chimiques, c'est une agriculture qui fonctionne au pétrole. D'accord ? Bon, quand nous lui posons la question, ouais, mais bon, vous voulez un Green Deal européen, donc ça appelle évidemment une transformation radicale de la politique agricole commune. Et ça tombe bien puisque c'est une compétence européenne, donc vous avez les manettes. Ah non. Donc pendant tout le processus de sa nomination jusqu'à son installation, l'installation de toute la commission, donc les 6 mois qui séparent juin et décembre, elle va refuser systématiquement de s'engager sur une révision de la politique agricole commune. Et c'est d'autant plus déplorable qu'elle arrive à un moment charnière, puisque en Europe, les périodes budgétaires, c'est des périodes de 7 ans. Et donc, on a tous les 7 ans une chance de revoir les politiques et l'articulation. Donc, la période qui s'achève, c'est 2014-2020, et va commencer la période 2021-2027. Donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour changer la PAC. Et là-dessus, elle est sur le frein. Alors, elle n'est pas bête non plus. Elle a bien mesuré que c'est probablement la politique sur laquelle les résistances au changement sont les plus violentes au sein de l'Union européenne. Bien sûr, c'est les fédérations agricoles les plus productivistes. C'est le Burenbond en Belgique, c'est la FNSEA en France. Et c'est clair que les fédérations agricoles qui sont plus favorables à une transition du modèle agricole pèsent beaucoup moins lourd dans le débat. La FUGEA ou la Confédération paysanne, etc., pèsent très peu dans le débat parce qu'elles elles représentent moins de business, quoi. Deuxième point qui est lié au premier, c'est la question de la politique commerciale. On en a beaucoup parlé en Wallonie à l'occasion du CETA. C'est évident que si vous voulez vraiment la transition écologique, mais j'ai envie de dire que probablement la chose à faire qui est la moins douloureuse, c'est de réduire le nombre de kilomètres que font les tonnes. Autrement dit, de réduire, de relocaliser. Je veux dire, à quel sens ça a d'importer, l'exemple est réel, de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande. On importe en Belgique de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande. Et elle arrive d'ailleurs au Trilogy-Port à Liège. D'accord ? Donc, il n'y a pas moyen d'importer de plus loin, parce que si vous allez plus loin que la Nouvelle-Zélande, vous vous rapprochez. D'accord ? Donc, c'est le plus loin qu'on peut sur la planète. En plus de ça, on importe ça à Liège, juste au pied du plateau de Herve. Allez, il ne faut pas se moquer du monde, quoi. Quel sens ça a ? Donc, une politique commerciale européenne dont le seul but est d'augmenter les flux de matière sur la planète, ben c'est un non-sens, c'est un contresens. En fait, il faut transformer l'objectif de la politique commerciale de l'Union pour en faire une politique de propagation des normes européennes. Et c'est là que la question des normes sociales, environnementales, fiscales contraignantes dans les traités devient absolument centrale. Et ben là aussi, refus de vraiment prendre en compte une remise en cause du modèle commercial, à tel point que le commissaire au commerce européen, Phil Hogan, quand il se présente à nous pour son audition et qu'il est questionné là-dessus, il dit mais on fait déjà tout bien. Notre politique commerciale est déjà alignée avec le Green Deal. Donc on a fait pendant des décennies des politiques commerciales. Il n'y a qu'à les continuer et on est aligné avec le Green Deal. À qui est-ce qu'on parle ici? Enfin, il est sourd, quoi. Alors bon, maintenant, il a dû démissionner pour d'autres raisons. Ça ne sera pas un Irlandais qui gardera le portefeuille du commerce. Et donc voilà, peut-être que ça, il y aurait une ouverture, mais c'est vrai que c'est un idéologue du commerce. Et donc, lui qui parte, on n'est pas trop mécontent. Mais donc, deux angles morts dans le Green Deal européen, politique agricole commune, politique commerciale, les deux étant liés, ça montre un peu les limites de l'ambition. D'accord ? Et puis, troisième témoin d'une ambition peut-être pas si forte que ça, c'est évidemment la question de qu'est-ce qu'on fait dans les 10 ans qui viennent. Alors, c'est très gentil, et c'est bien, de déclarer l'ambition d'une neutralité carbone pour l'Europe en 2050, mais le GIEC dit c'est les 10 ans qui viennent qui sont cruciaux. Parce que 2050, moi, je serai peut-être mort. De toute façon, je ne serai plus détenteur d'un mandat politique, mais au cas des commissaires, au cas des ministres, au cas des chefs d'État de gouvernement non plus. Ça ne mange pas de pain de dire ça. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, le dossier test, c'est les objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour les 10 ans qui viennent. Quand on a conclu l'accord de Paris, c'était quoi, 2015, 2016, je ne sais plus maintenant. 15, hein. On dit viser un réchauffement par rapport à la période pré-industrielle en dessous de 2 degrés et le plus proche possible d'un et demi. Ça, c'est l'ambition affichée. Je rappelle que les accords de la COP21 ne sont pas légalement contraignants, mais c'est l'ambition affichée. Et on compte sur des engagements volontaires des parties au traité, donc en l'occurrence les 27 États de l'Union, pour faire leur part de cet objectif. L'Union européenne, si on regarde ce qui serait sa juste part d'un effort de réduction des émissions qui permette d'atteindre les objectifs de Paris, elle devrait réduire par rapport à la période pré-industrielle ses émissions de CO2 de 65% en 2030. D'accord ? Les objectifs actuellement dans la législation européenne, c'est 40% de réduction. Donc on en est loin. D'accord ? Donc si on veut faire notre juste part des efforts de Paris, on devrait réduire nos émissions de 65% en 2030. Ce n'est pas dans la loi européenne. Donc la première chose à faire, c'est de relever nos objectifs de réduction de CO2 au niveau adéquat. Bonne nouvelle, on a au Parlement européen une majorité qui s'est exprimée à 3 reprises sur un objectif non pas de moins 65%, pour ça il n'y a pas de majorité, mais à moins 55%. Moins 55, c'est beaucoup plus que moins 40. D'accord ? Donc on se serait attendu à ce que Ursula von der Leyen très vite disent dans sa loi climat, bon, ben, objectif 2030, il passe de moins 40 à moins 55, parce que pour ça, j'ai une majorité au Conseil, j'ai une majorité au Parlement. Oui, non, on va faire une étude d'impact, on va réfléchir à ça, et donc l'étude d'impact est en cours, quoi. Mais le GIEC a fait l'étude d'impact, si on ne fait pas le truc. On a l'impact, on le sait, c'est le dérèglement climatique complètement hors de contrôle. C'est ça l'impact qui compte. Est-ce qu'il faut vraiment savoir, oui, mais ça va rendre le business de Volkswagen plus difficile? Bah oui, ben ça c'est la vie, les gars. Ça, qu'est-ce que vous voulez? On a cassé beaucoup d'œufs pour faire des omelettes par le passé. Ben, les œufs étant cassés, il faut en payer le prix aujourd'hui. Voilà. Donc on se cache un peu derrière ces études d'impact parce qu'on n'a pas le courage politique de dire, voilà, eh bien, nous, on met sur la table une proposition et nous mettons au défi une majorité d'être contre. Parce que je vous rappelle qu'on décide encore certaines choses à l'unanimité dans l'Union européenne, mais la plupart des choses, on les décide à la majorité. Les objectifs climat, on les décide à la majorité, pas à l'unanimité. Alors, les chefs d'État et de gouvernement préféraient qu'on garde l'unanimité, parce qu'ils veulent pas, enfin, ils veulent garder, en fait, leur droit de veto. Mais rien n'oblige à ça. S'il y a une majorité au Conseil, sur la question migratoire, ça a été la même chose, et c'est déplorable, parce que nous avions une majorité au Parlement européen pour mettre un terme à ce qu'on appelle la règle de Dublin, donc qui, en fait, fait que ce sont les États de premier accueil de demandeurs d'asile qui doivent traiter la demande d'asile. Mais forcément, si vous êtes le Luxembourg ou l'Irlande, c'est l'accord de Dublin, ben vous n'êtes pas dans la même situation que si vous êtes la Grèce, Malte ou l'Italie, hein. Bon, donc c'est évidemment un truc qui marche par beau temps, mais une fois qu'on a un gros afflux, ça ne marche plus. Et donc, il y avait une majorité au Parlement européen, majorité des 2/3, pour supprimer cette règle de Dublin et la remplacer par un système de gestion collective des demandes d'asile. Ben, au Conseil européen, on ne sait pas s'il y a une majorité, parce qu'à l'époque, le président du Conseil a dit « Nous voulons décider ça à l'unanimité, autrement dit ». Nous ne déciderons pas tant qu'il n'y a pas d'unanimité. Ça veut dire jamais. Et donc, ils ont bloqué le processus législatif européen. Donc, s'ils veulent, ils peuvent le bloquer. Parce qu'évidemment, comme on est co-législateur, il faut que nous, on décide et il faut qu'eux décident. Si eux décident de ne pas décider, on est bloqué. Et il n'y a pas de mécanisme qui les oblige. Il n'y a pas de truc qui dit bon, ben, si le Conseil, c'est pas prononcé. Enfin, si un des deux co-législateurs ne s'est pas prononcé dans les 18 mois, 24 mois, je ne sais pas, ben, on considère qu'il est d'accord. Ça, il n'y a pas ce mécanisme-là. C'est comme un Parlement bicaméral, et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que deux angles morts dans le Green Deal européen, politique commerciale, politique agricole, et les objectifs climat 2030. Est-ce que ça veut dire pour autant que rien ne va changer là-dessus? Non, pas nécessairement. Mais ça, sont des batailles qui doivent encore venir. Donc, on est en décembre face à une communication Green Deal européen qui nous semble plutôt sympathique. Et donc, quelle est la situation des Verts à ce moment-là? Donc on est en juillet face à une candidate présidente de la Commission qui sort de nulle part et nous votons contre elle parce que nous n'avons pas été associés au choix. Je rappelle que c'est le Conseil européen, le chef d'État et de gouvernement qui propose un nom, c'est le Parlement qui approuve. Nous avions au Parlement une majorité pour dire ben, la personne qui sera président de la Commission doit avoir concouru aux élections européennes avec pour ambition d'être président de la Commission. Ursula von der Leyen a été tirée du chapeau par le Conseil et n'a pas participé à ce processus, donc déjà, ça ne nous arrange pas. Deux, c'est en fait le fruit d'un arrangement entre libéraux, sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates. Donc, il n'y a pas de raison qu'a priori, on vote en faveur de la candidate. Et donc, au mois de juillet, on vote contre sa nomination. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'en théorie, les trois familles politiques qui l'ont mise en avant jouissent d'une majorité d'une centaine de sièges, donc au-dessus de la majorité absolue, et elle passe de justesse à 7 ou 9 voix d'avance. Et donc, en fait, elle a perdu 90 de ses propres députés, et elle a obtenu des députés hors de la majorité qui l'ont sauvée. Le deuxième vote a été le vote de la Commission dans son ensemble. Entre-temps, elle avait un peu étayé son discours sur le Green Deal européen. Et là, dès l'instant... Donc si Ursula von der Leyen ne passait pas en juillet, le Conseil avait un mois pour proposer quelqu'un d'autre, on perdait un mois. Mais si en novembre, on votait contre sa Commission, alors c'est tout le processus de la Commission qui devait recommencer à zéro. Nouvelle présidente et des nouveaux candidats, des nouvelles auditions, on perdait tout de suite un an. Et donc là, on s'est dit, vu que le GIEC nous donne 10 ans, aller dire non à la Commission, ce n'est pas responsable, donc on ne va pas accepter pour argent comptant ce qu'il dit sur le Green Deal, mais on ne va pas pour autant sortir le carton rouge. Donc on va dire, on s'abstient, et on attend de voir la matière, d'accord ? Et puis il y a la communication Green Deal, où là, ça devient beaucoup plus précis, et là, il y a une résolution du Parlement qui est positive et que nous partageons. Là-dessus, le Covid. Donc ça allait commencer... Et paf, on prend le Covid qui, évidemment, gèle l'agenda. On se trouve dans une situation où le Parlement est suspendu, en fait, de facto, hein, puisque, en fait, le premier mois, ben, le Parlement était aux abonnés absents, puisqu'on ne pouvait pas se réunir, et on n'avait pas encore en place... Enfin, le Parlement est prévu pour fonctionner en présence physique. On n'avait aucune infrastructure prévue pour faire des réunions à distance, etc. Donc ça a pris un mois... pour mettre les choses un peu en route, mais aussi la priorité politique en Europe est devenue la gestion de la pandémie. Et c'est normal, c'est normal. Alors, là aussi, il y a une première phase où les États membres tirent chacun la couverture, enfin, tirent leur plan dans leur coin. Je rappelle que les compétences santé publique sont des compétences qui sont restées au niveau des États membres, donc ce n'est pas des compétences qu'on a fédéralisées au niveau européen. Donc, en fait, l'Europe n'avait même pas le pouvoir d'aller dire, bon, ben, on va décréter des zones de confinement, etc. Ce n'est pas dans nos compétences, donc on ne le fait pas. Mais on a eu quand même des exemples pas très édifiants de solidarité européenne. Quand les Allemands refusent l'accès de leurs hôpitaux pour des patients français de l'Est, de la France, d'Alsace, ce n'est pas très glorieux. Quand les mêmes Allemands ou les Tchèques, etc., détournent ou refusent l'exportation de masques ou de matériel respiratoire, ce n'est pas très glorieux non plus. Donc, dans un premier temps, c'était quand même chacun pour soi, quoi. Dans un deuxième temps, c'est poser la question, d'abord, est-ce qu'il y a moyen de mieux se coordonner ? Et on l'a fait. Alors, c'est de nouveau pas très coordonné pour le moment, mais de nouveau, on n'a pas le pouvoir, puisque la Belgique dit que Paris est en zone rouge, mais d'autres pays ne disent pas la même chose. Donc, en fait, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, le regard qu'on a sur les autres pays n'est pas le même, et le regard que les autres pays jettent sur vous n'est pas le même non plus. Donc, tout ça fait un peu désordre. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait des compétences de gestion de situation d'urgence au niveau européen, qu'au moins on ait les mêmes critères pour décréter que telle partie de l'Union européenne, telle partie, etc., est en zone rouge, et qu'on ait les mêmes consignes pour tous les Européens en termes de voyage vers ces pays-là, de quarantaine éventuelle quand ils en reviennent, etc. Mais bref, on n'en est pas encore là. Mais la question qui se posait, fondamentalement, c'est est-ce que nous allons répondre collectivement aux conséquences économiques, parce que ça, c'est des compétences européennes, aux conséquences économiques de la pandémie. Donc, c'est un secret pour personne. Bon, un, on n'est pas sorti de la pandémie. Deux, l'impact économique est déjà colossal et va l'être encore plus, parce que pour l'instant, on a limité les dégâts en ayant des systèmes de chômage temporaire et voilà. Mais en réalité, les faillites d'entreprises, ça va s'amplifier à l'automne. Enfin, je veux dire, le transport aérien, avant qu'il revienne à la normale, si tant est que nous souhaitions qu'il revienne à la normale, je ne pense pas que c'est souhaitable, mais il va y avoir des réductions d'emplois colossales dans le secteur aérien, pour prendre juste un exemple. Et donc, c'est évident que l'impact va être très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Je veux dire, quand vous regardez la dépression de 1929, le New Deal aux États-Unis a été une réponse macroéconomique à ça. Et en fait, quelle a été l'idée? Bon, ben, y a toute une partie de l'économie qui s'effondre. Pour redémarrer l'économie, ben, il faut identifier des projets qui sont de toute manière utiles à la société. Et deux, il faut que l'État se substitue au marché pour lancer les investissements. Et alors, la machine du marché suivra. Mais le rôle d'impulsion doit venir de l'État. Et donc, à l'époque, qu'est-ce qui est fait? Ben, le grand projet phare du New Deal, c'est équiper les États-Unis d'un réseau d'autoroutes qui traverse tout le pays pour désenclaver le pays. Donc, c'est les autoroutes interstate, qui sera le grand projet fédérateur financé par l'État fédéral et qui a été le signal de la relance de l'économie. La question, c'est est-ce que l'Union européenne va faire la même chose? Et donc, c'est tout le débat, grosso modo, du mois de mai et du mois de juin. Et c'est un débat crucial, parce que imaginez que la réponse de l'Union européenne à ses États membres soit « Bon, ben écoutez, pour faire face aux conséquences économiques de la crise, c'est chacun pour soi », c'est la fin de l'Union européenne. C'est pas juste la fin de l'euro, c'est la fin de l'Union européenne. Pour une raison symbolique d'abord, si face à une urgence absolue comme la pandémie, le message des chefs d'État et de gouvernement européens, c'est chacun pour soi, à quoi sert l'Union européenne? Je veux dire, si même face à une urgence pareille, on n'est pas capable de serrer les coudes, il ne faut pas demander si on va serrer les coudes dans d'autres temps. Hein. Donc si l'Union européenne n'a pas une réponse collective là, politiquement, le projet n'a plus de sens. D'accord? Mais je dirais économiquement, c'est enclencher la mécanique de l'explosion de l'euro. Je m'explique. C'est clair que les pays ne sont pas touchés de la même manière par l'impact économique de la pandémie. Et deux, ils abordent la pandémie dans une situation budgétaire qui est très différente d'un pays à l'autre. L'Allemagne est en état de sous-investissement depuis 10-15 ans, mais elle a des réserves budgétaires et des marges budgétaires colossales. Donc si l'Allemagne toute seule veut faire des programmes de grands travaux publics, elle a tous les sous qu'il faut pour le faire. Elle a la capacité d'endettement qu'il faut. Mais si vous dites à l'Italie, maintenant, l'État doit prendre le relais et doit relancer l'économie, ben, le niveau d'endettement d'Italie est tel qu'en fait, l'Italie n'a pas la marge de manœuvre pour faire. Donc, vous rentrez dans la crise économique avec une situation complètement disparate et des tensions déjà très fortes dans l'euro, mais l'absence d'une réponse commune va juste faire exploser ces tensions. Autrement dit, ce qu'on a connu à l'époque de la Grèce, c'était pour rigoler, hein, parce qu'on parlait d'un tout petit pays qui représentait à tout casser 3% de la zone euro. Ici, si vous dites à des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France, etc., les gars, vous vous débrouillez tout seul, c'est fini l'euro. Et de nouveau, politiquement, si la monnaie unique s'écrase, c'est la fin de l'Union européenne. Parce que de nouveau, l'euro est probablement la réalisation économique la plus fédérale de l'Union européenne. S'il se casse la gueule, ben, comment est-ce que le reste va encore fonctionner? Donc voilà, c'était ça qui était sur la table des chefs d'État et de gouvernement européens depuis le mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé? De nouveau, je fais un peu le récit. Au mois d'avril, il y a des idées qui circulent dans les articles de journaux. Mais dans les milieux politiques, il y a un grand tabou, c'est le tabou de la solidarité financière entre les États membres. Donc est-ce que, en fait, pour faire simple, est-ce que nous allons emprunter ensemble de quoi financer un plan de relance européen, oui ou non? C'est la question centrale. Jusque maintenant, on a fait beaucoup semblant. On a un budget fédéral de l'Union, mais qui représente 1% du PIB, donc c'est assez petit. Ici, on a besoin de multiplier ça idéalement par 10, mais à minima par 3 pour avoir un vrai impact. Première chose, c'est est-ce que la Commission européenne va faire une proposition, va mettre en fait les États membres devant leurs responsabilités en faisant une proposition de plan de relance qui est à la hauteur du défi? Première interrogation. Le mois d'avril se passe, le mois de mai se passe. Moi, je suis en contact étroit avec la présidente de la Commission et elle m'assure, oui, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas faire un plan un peu factice où on va réhabiller des programmes existants pour leur donner l'apparence d'un plan de relance. Non, non, elle dit, ce que moi je proposerais, c'est de multiplier pour 2 ou 3 ans le budget européen par 3 et financer tout ça par l'emprunt. Et donc, je sens que de son côté, il y a une volonté de faire quelque chose. Alors, nous, on dit qu'il faudrait le multiplier par 5 ou par 10. Mais enfin, si elle propose déjà un truc multiplié par 3, parce qu'il faut aussi que ça passe. Hein. Et puis, au mois de mai, il y a ce sommet franco-allemand où, en fait, l'Allemagne se rallie à l'idée. Donc, il faut se rendre compte de ce qui se passe. L'Allemagne a été le pays qui a essentiellement bloqué la solidarité financière de l'Union à l'époque de la crise de la Grèce. Donc, tout ce qu'on a fait pour la Grèce, c'est emprunter en son nom. Donc on a dit, OK, vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés financiers, nous on va le faire pour vous, mais évidemment c'est vous qui remboursez, hein, les gars. Donc en fait, on a aggravé significativement la dette grecque et en contrepartie, on a imposé une austérité à ce pays qui n'est pas possible. Tout ça parce que l'Allemagne ne voulait pas qu'on emprunte collectivement pour rembourser collectivement. Et subitement, face au défi de la pandémie, Angela Merkel dit, en fait, c'est même pas... De la charité, ce que je propose. Je pense qu'il faut qu'on emprunte ensemble parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de l'Allemagne. Le sort de l'Allemagne est complètement lié au sort de l'Union européenne et de la zone euro en particulier. Et donc, nous, on tient à donner un avenir à l'Union européenne et à son union monétaire. Et le prix de ça, c'est un plan de relance européen financé ensemble et dépensé ensemble. Et donc, dépenser en fonction des besoins et rembourser en fonction des capacités. Ce qui veut dire, en termes belges, une union de transfert, hein, ces fameux transferts Flandre-Wallonie. Mais donc l'Allemagne, pour qui c'était un tabou, mais tabou, une porte verrouillée, blindée, verrouillée 10 fois. Quoi. Angela Merkel fait sauter le tabou. Et donc la presse allemande titre sur le virage à 180 d'Angela Merkel, mais ça passe bien. En réalité, elle n'est pas seule. Bon, Angela Merkel... C'est quelqu'un aussi, je veux dire, qui n'est pas vraiment une leader. C'est quelqu'un qui sans l'opinion publique, sauf sur la question migratoire, où elle est allée à rebours de son opinion publique, enfin d'une partie de son opinion publique, mais là-dessus, comme sur la... Je rappelle quand même que quand Angela Merkel arrive au pouvoir, elle dit, c'est quoi cette loi de sortie du nucléaire décidée par les socialistes et les Verts? C'est n'importe quoi. Moi, je vais prolonger le nucléaire. D'accord? 6 mois après Fukushima... « Oh non, 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 il faut sortir du nucléaire, et vite, plus vite que ce que les Rouges et les Verts voulaient. » Donc Angela Merkel a déjà montré par le passé qu'elle était capable de faire des virages à 180 degrés. Et Vlad dit pas qu'elle le refait sur la question de la dette commune. Évidemment, encouragée par le deal franco-allemand, la Commission européenne propose ça. Propose un plan de relance à 750 milliards, 500 milliards de subsides, 250 milliards de prêts. Donc, pour 250 milliards, la Commission européenne emprunte pour le compte des États membres, mais c'est les États membres qui assument cette partie-là de la dette. Et pour les 500 milliards restants, l'Union européenne emprunte ensemble, ajoute ça au budget européen et dépense dans les États membres, mais le remboursement des emprunts est un remboursement collectif. Donc, si, je ne sais pas, il y a 100 milliards qui vont en Italie, ce n'est pas l'Italie qui remboursera ces 100 milliards, c'est nous collectivement qui rembourserons ces 100 milliards. C'est là que se manifeste la solidarité européenne. Et donc, la proposition est sur la table, c'est une proposition qui, pour le Parlement et pour nous, est insuffisante dans son volume, mais est correcte dans son architecture. Et de toute façon, il ne faut pas espérer non plus que le tabou ayant sauté, si on avait dit « Ok, on fait sauter le tabou et on emprunte ensemble 1500 milliards d'euros », je ne pense pas que ça aurait passé la rampe. Je pense que le truc aurait été abattu avant même qu'on en discute. Donc, quand elle arrive avec 750 milliards, c'est un montant... Alors, ce n'est pas un montant massif, hein, ça sonne beaucoup, mais ça représente, comme je dis, 1 point de PIB européen... Non, 2 points de PIB européen pendant 3 ans. Quoi. C'est pas énorme. Quoi. Mais bon, voilà. Et donc, c'était le sommet du mois de juillet, et ça sera la fin de mon récit pour mon introduction. Le sommet qui s'est réuni du 17 au 21 juillet, sous la houlette de qui vous connaissez, l'expire Premier ministre que la Belgique a eu ces dernières années, mais qui s'est révélé à la tête du Conseil européen un fin manœuvrier. Donc il a amené, le Conseil européen a décidé en une fois, alors c'était la première réunion physique du Conseil européen depuis le début de la pandémie, Tout le monde disait, ouais, il faudra deux sommets pour s'en sortir. Alors, c'était aussi un peu gérer les attentes. Mais... Et donc, il y aura un sommet à la mi-juillet pour constater les désaccords, et puis 15 jours de raccommodage, et puis il y aura un sommet réussi fin juillet. En fait, il est allé au finish. Il est allé au finish, mais il a fait face à la fronde de 5 États membres qui refusaient même le principe de l'emprunt commun. C'était les Pays-Bas, gouvernés par un gouvernement libéral et chrétien-démocrate, Mark Rutte, libéral. C'était la Suède, gouvernée par un gouvernement minoritaire socialiste écolo. C'était la Finlande, gouvernement majoritaire, mais qui va du centre droit aux écolos, et gouvernée par une social-démocrate. C'était l'Autriche, gouvernée par une alliance chrétienne-démocrate écolo. Et j'en oublie un. Pays-Bas, Suède, Finlande, Autriche. Qui est-ce que j'oublie ? Danemark, évidemment. Gouverné par un gouvernement minoritaire social-démocrate. Alors, donc je ne vous ai pas caché la couleur politique de ces gouvernements. Je peux vous dire qu'à l'intérieur de ces gouvernements, les Verts se sont battus en faveur du plan de l'Union européenne, et l'ont dit publiquement, mais ont été... Bon, on est toujours minoritaires dans les gouvernements où nous sommes, mais en particulier en Autriche, c'était extrêmement brutal. Le chancelier Kurz a pris ses positions sans même consulter son partenaire écolo en disant « Ouais, mais enfin, si je dois commencer à vous consulter sur tous les sujets, y compris des petits sujets comme ça. » Vraiment, c'est ce qu'il a dit. « Ouais, mais allez, c'est quand même pas si important, ce truc. Hein. » Donc, on a quand même bien conduit. C'est un accord de coalition aussi assez particulier où, essentiellement, les Verts font leur soupe de leur côté dans leurs compétences, les chrétiens-démocrates font leur soupe de leur côté dans leurs compétences. Et personne n'emmerde le voisin. Donc c'est très bizarre comme accord de coalition, mais voilà. Donc, utilisant ce prétexte-là, Kurz n'a même pas consulté les Verts. Donc on a activement milité à l'intérieur de ces gouvernements pour adoucir leur position en disant « on ne doit pas se battre contre l'idée de la solidarité européenne, par contre on doit se battre pour une conditionnalité forte de l'argent dépensé au respect de l'état de droit et à l'alignement avec le Green Deal européen ». Mais au lieu de se battre là-dessus, ils se sont battus, en fait, au Conseil, ils se sont battus contre le principe même du plan. Donc ils rentrent en disant « Nous, on veut que des prêts, on ne veut pas de subsides, allez tous vous faire foutre. » Et donc, le sommet commence le vendredi. Samedi soir, Charles Michel constate que c'est insoluble. Insoluble, ils disent « Non, 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 non. » Et donc, il réunit les 27 et il dit « Voilà, moi j'ai 22 gouvernements qui sont prêts à y aller, j'ai 5 gouvernements qui bloquent. Mais comme on doit décider, c'est un paquet sur le budget pluriannuel pour les 7 ans qui viennent, plus le plan de relance, il faut l'unanimité, mais ça c'est aussi parce qu'ils décident qu'il faut l'unanimité. Et donc voilà, je vais déclarer l'échec. » Et alors le Premier ministre suédois, avec une petite voix, « Oui, mais enfin, peut-être qu'on pourrait continuer à discuter, non ?»« Ah bon, si vous voulez. » Et donc, il réunit les 5 récalcitrants, qui s'appellent eux-mêmes les frugaux, mais qu'on doit appeler les radins ou les nationalistes économiques, ce qui est plus factuellement correct. Non, mais je veux dire, nationalistes économiques, c'est exactement ce qu'ils font. Ils continuent à penser que pas un euro de bon argent néerlandais, donc nous, on leur pique leur recette fiscale, mais on ne va pas aller leur prêter de l'argent, ou on ne va pas se déclarer solidaire d'emprunt commun, quoi. Et donc, Charles Michel réunit les 5 séparément, tard le samedi, en disant « Voilà, les gars, vous devez bouger, parce que si vous restez sur une position en disant « Pas question de subsides, que des prêts », il n'y aura pas d'accord. » Et ils ne veulent pas bouger, et là, c'est Rutte qui mène la bagarre. Et donc, très tard dans la nuit, Charles Michel dit « Ok, ça va. Vous vouliez encore discuter, mais cette discussion ne donne rien, je vais déclarer l'échec. » Et alors, la Rutte a dit oh, « Non, non, pas si vite », parce qu'il commence à réaliser, évidemment, que c'est lui qui va porter le chapeau de l'échec et que peut-être qu'aux Pays-Bas, il sera populaire chez certains, mais qu'il va quand même en prendre plein la gueule aussi. Et donc, c'est là qu'il y a eu une percée et où ils ont dit « Ouais, allez, on veut bien accepter quand même, mais pas 500 milliards de subsides. » Donc, je vous rappelle, 750, 2/3 subsides, 1/3 prêt. Eux, ils voulaient zéro subsides, mais ils ne veulent pas accepter pour autant les 500, et donc c'est pour ça qu'ils ont finalement tranché à 390, ce qui est symboliquement important, mais macroéconomiquement, ce n'est pas beaucoup. Mais bon, on a quand même fait une percée. Donc, succès au sommet européen, mais un succès qui a un prix, puisque comme on décide à l'unanimité, vous êtes pris en otage par 5 États, vous devez donner au preneur d'otage une rançon. Et la rançon n'est pas jolie. La rançon n'est pas jolie, c'est d'une part qu'on leur donne des... Comme c'est tous des contributeurs nets au budget, on leur donne un rabais sur leurs contributions, mais donc ça veut dire que c'est les autres États membres contributeurs nets qui vont devoir douiller plus. Et c'est un mécanisme hérité de la période Thatcher. Deux, on a fait des coupes sombres dans les budgets de l'Union et comme par hasard dans les parties les plus intéressantes du budget de l'Union. Un exemple, la politique agricole commune a un petit pilier modeste qui peut être utilisé pour la transition écologique du modèle agricole. Ça s'appelle le Fonds européen de développement rural. Eh bien, pour prix de l'accord, on a coupé ce fonds, qui était un petit morceau de la PAC, de moitié, carrément. Donc c'est déjà pas gros. Eh bien, on n'avait pas grand-chose, maintenant on aura la moitié de pas grand-chose, face à un reste de la PAC qui est complètement productiviste. C'est des coupes fortes dans le budget prévu pour Erasmus, alors ça on va dire, ouais, c'est pour les bobos. C'est des coupes fortes dans le budget de recherche européen. Je veux dire, dans toute la partie du budget qui était orientée vers l'avenir, ben, on a fait des coupes sombres. Et donc, on est au moment où l'assentiment du Parlement européen est exigé pour adopter le budget de 7 ans. Alors évidemment, la politique traditionnelle des chefs d'État et de gouvernement, ça dit, écoutez les gars, c'était déjà suffisamment difficile pour trouver un accord. Maintenant, on ne peut plus toucher à rien, donc vous avalez. Mais le Parlement ne l'entend pas de cette oreille. Et donc, il y a un certain nombre de combats que le Parlement va mener maintenant, donc en septembre-octobre, pour quelque part réduire un peu les dégâts du deal de juillet. Donc on ne veut pas remettre en cause le deal, on veut qu'il y ait un deal sur le plan de relance, mais on veut remédier à certaines coupes sombres qui ont été faites, ça, premier aspect. Deuxième aspect, nous voulons renforcer ce qu'on appelle la conditionnalité état de droit, autrement dit, on ne veut pas que de l'argent européen aille dans des pays qui ne respectent plus les règles européennes en termes de séparation des pouvoirs, d'indépendance de la presse, etc. Et donc ce qui a été agréé au mois de juillet est très, 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 très soft. Et troisième point, on veut que le Parlement ait un droit de regard sur la manière dont l'argent du plan de relance sera dépensé, et en particulier sur son alignement avec le Green Deal européen. Donc ça, c'est la bataille qui va être menée maintenant, septembre-octobre, et j'espère que d'ici là, on aura un accord de sorte d'être opérationnel début d'année prochaine. Alors, quelles leçons tirer de tout ça ? Ben, il y a des tabous qu'on sautait. Le fait de faire de la transition écologique le projet central des politiques européennes, c'est un tabou qu'a sauté. Le fait d'emprunter ensemble pour financer un plan de relance, c'est un verrou qu'a sauté. Potentiellement, parce qu'un jour, il faudra rembourser cet argent, comment est-ce qu'on va le faire ? Ben, peut-être que ça va nous obliger de faire sauter un troisième tabou. C'est celui de mettre en place une fiscalité européenne. Parce qu'en fait, comme on a décidé d'emprunter ensemble, un jour, il faudra rembourser, on a décidé qu'on rembourserait dans le cadre du budget européen. Ah ah ! Donc, ça veut dire que soit, quand on commencera les remboursements, il faudra augmenter le budget européen pour payer les remboursements en plus de tout ce qu'on fait ailleurs, ou alors il va falloir faire moins sur la politique agricole commune, les fonds structurels, etc. Donc, la première option, c'est inacceptable pour les pays contributeurs nets. La deuxième option, c'est inacceptable pour des pays comme la Pologne, etc. Donc il restera une troisième solution, c'est d'abonder le budget européen par des impôts européens spécifiques sur les multinationales, en particulier celles du numérique, ou une taxe carbone aux frontières. Et donc on aura peut-être, comme résultat de l'accord sur le plan de relance, peut-être, c'est pas garanti, Macron fait comme si c'était fait, c'est pas du tout fait, mais peut-être qu'on aura un embryon de fiscalité européenne, en particulier sur les multinationales. Et donc potentiellement, c'est une troisième avenue qui s'ouvre. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le Green Deal européen, sur le plan de relance, on a des tabous qu'on sautait, mais tout va dépendre de la mise en œuvre. Est-ce qu'on aura le courage de transformer la politique agricole commune, la politique commerciale de l'Union ? Est-ce qu'on aura le courage de soumettre toutes les dépenses européennes au test de leur alignement avec le Green Deal ? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on va mettre en place une fiscalité européenne sur les grandes entreprises pour rembourser les emprunts communs ? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein des institutions européennes, les doctrinaires néolibéraux sont toujours majoritaires. Mais, me disent tous les gens que je fréquente dans le milieu, ils sont sur la défensive maintenant. Hier, Ils avaient l'arrogance des vainqueurs. Aujourd'hui, ils savent que, ben, dans le contexte du Covid, il va falloir justifier qu'on continue les accords de libre-échange. Ça va être plus compliqué. Il va falloir s'opposer à la relocalisation de notre agriculture. Ben, ça va être plus compliqué. Donc, le rapport de force, si vous regardez au Parlement européen, au Conseil, il évolue, mais pas très vite. Peut-être que demain, on aura un sixième gouvernement avec la Belgique, avec une présence des écolos. Et j'espère que ça va se passer. Mais peut-être qu'en 2021, les Verts seront au gouvernement en Allemagne, en 2022 en France, en 2023 en Italie, qui sait. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les rapports de force changent, mais lentement. Mais dans les têtes, l'esprit victorieux a changé de camp. Le camp néolibéral est aujourd'hui sur la défensive. Et donc, c'est le moment d'aller à l'offensive maximale. La société civile, les jeunes qui marchent pour le climat qui ont été reçus par Merkel l'autre jour, le monde syndical, toutes les forces de la société civile et, j'ai envie de dire, les forces qui veulent la transition écologique et solidaire dans la politique, et les Verts n'ont pas l'exclusivité de ça. Je pense qu'on est leader là-dessus, mais qu'on n'est pas seul, et il vaut mieux qu'on ne soit pas seul. Mais c'est le moment d'aller à l'offensive. Donc, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est qu'une série de portes qui étaient fermées à double tour sont ouvertes, ou, pour prendre une métaphore footballistique, pour ceux qui aiment ça, l'espace devant le goal se dégage, mais ce n'est pas pour ça que la balle va rentrer toute seule dans les filets. Hein. Faut aller la mettre. Et donc, c'est vraiment maintenant que ça se joue. C'est vraiment maintenant que ça se joue. Je dirais, après une crise majeure, je suis devenu député européen dans la foulée de la crise de 2009. Et de 2008, plutôt. Ben, moi, j'ai constaté à l'époque qu'on a, dans une situation pareille, 18 à 24 mois pour mettre en place des changements structurels. Au-delà, l'inertie du système reprend le dessus. Eh bien, on est dans cette phase-là. Enfin, on est toujours dans le Covid. Mais donc, on a en face de nous 18 à 24 mois pour engager la transition. Mais mon petit doigt me dit que le rapport de force est bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Parce que quand vous avez une conservatrice comme von der Leyen qui dit « Ouais, tout compte fait, il faut un Green Deal européen. » Et alors vous devez savoir que la numéro 2 de son cabinet, c'est celle que j'aurais prise si j'avais été commissaire européen comme chef de cabinet. C'est une Française qui a des jeunes enfants, qui vient de la galaxie socialiste, on va dire, pour dire au sens très large. C'est quelqu'un qui est absolument convaincu qu'il faut engager la transition, alors qu'elle vient de la direction générale économique et financière de la Commission, qui est le temple de l'orthodoxie par excellence. Et donc, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, même si l'hirondelle est une pandémie. Et c'est sûr que quand les jeunes ont été voir, les quatre jeunes femmes ont été voir Merkel l'autre jour, elles ne sont pas sorties de là en disant, ça y est, Merkel a compris, elle va faire aussi un 180 degrés et devenir la chancelière du climat. Elles ont dit, ce n'est pas vraiment ça qu'on a entendu. Donc la bataille reste à mener. Mais, moi, il me reste 4 ans à faire et je n'ai jamais eu autant d'énergie parce que je vois l'opportunité de marquer vraiment des goals durables s'ouvrir devant nous. J'ai l'impression d'avoir pendant 11 ans au Parlement européen ramé à contre-courant. Et subitement, on dirait que le courant est en train de s'inverser de sens. Donc voilà, ça c'est la situation et donc faisons-en le maximum et on verra bien ce que ça donnera. Quoi. Voilà. C'est mon intro.
Vous écoutiez Philippe Lambert, enregistré le 28 août 2020 à Bleugy, dans l'entité de Tours.